Génération, l'émission pour toutes les générations, conçue et réalisée par les jeunes de plus de 60 ans de Haute-Garonne.
Bienvenue dans l'émission Génération, au cœur de ce mois de novembre 2020, dans un nouveau confinement. Mais l'équipe de Génération ne lâche rien et reprend les Zooms et autres enregistrements à distance. Donc avec Margaret, Christiane, Josie, Eugène, Jeg, Eliane, Christine et Isabelle, nous avons concocté ce programme. Un regard dynamique et original sur ce nouveau confinement. Nous dégusterons ensuite les champignons d'automne dans la rubrique santé. Enfin, une rencontre locale avec un charmant vieux monsieur nommé Eugène qui vit à Mérinvielle. Grâce à lui, aujourd'hui, l'opéra et Jean de La Fontaine sont à l'honneur. Puis nous découvrirons, tout au long des prochaines émissions, quelles sont ces fables qui nous ont laissé de si profondes traces dans nos mémoires.
Texte original.
Ah, ce mot maudit, confinement, ou plutôt reconfinement. Et pourtant, c'est beaucoup moins contraignant cette fois-ci qu'au printemps. Les adultes travaillent et les enfants vont à l'école. Les soins se sont améliorés et il semblerait même qu'il y ait un vaccin à l'horizon. Néanmoins, nous connaissons tous quelqu'un touché par ce virus, directement ou indirectement. Cette fois, je pense que c'est plus difficile à vivre sur le plan psychologique. Peut-être parce qu'on continue à utiliser le mot « confinement », ce qui nous rappelle les angoisses, mais le protocole est tout de même moins dur. L'autre jour, j'ai entendu en parler à la radio une psychologue. Nous avons tous des rêves, des plans qui seront peut-être réalisables après, mais c'est là le changement. Elle préconisait de planifier quelque chose qui peut se faire aujourd'hui. Plus facile, sans doute, quand on est deux. Mais avec mon mari, on aime bien manger à l'extérieur. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Quoi ? Pendant le confinement ? Mais oui ! Le week-end dernier, nous avons commandé un repas à emporter. Pas n'importe quoi, un bon repas. On a dressé la table dehors, dans le jardin, avec notre joli service de mariage et les beaux verres. Une table qui ferait des envies aux plus grands restaurants. On s'est habillé bien comme il faut, je me suis maquillée et voilà, le tour était joué. Résultat, un repas au top et mémorable. Ça a fait du bien au moral, mais aussi à notre couple. Il y a plein de choses à faire. On peut aller au théâtre un soir en s'habillant pour l'occasion. Même la promenade d'une heure peut être transformée en chasse au trésor avec les enfants. Pour moi, cette dame a parlé vrai. Elle avait raison. À nous de transformer cette période compliquée qui laisse des souvenirs négatifs en bons souvenirs.
Somebody cœur est malade, toi seul peux me guérir.
Même si c'est la fin de la saison, nous allons aujourd'hui parler des champignons. Josie, dis-nous tout.
Alors, tous les champignons, y compris les truffes, sont dépourvus de racines, de tiges et de feuilles. Ce sont des végétaux primitifs qui, incapables de photosynthèse, tirent leur nourriture de l'humus, matière organique du sol, provenant de la décomposition partielle de matière végétale. Plusieurs champignons vivent en saprophyte sur les arbres. Ils se nourrissent par l'intermédiaire des racines de leurs hôtes et leur fournissent en retour des minéraux, comme le phosphore qu'ils extraient du sol plus efficacement que ne le fait leur système racinaire. La truffe, un champignon de luxe.
Ah, la truffe pour Noël, ça va bien tomber.
Les truffes poussent sous terre, parmi les racines de certains arbres, chênes, noisetiers, tilleuls, dans quelques régions de France et d'Italie. Leur odeur musquée est due à une hormone, l'endosnénol, proche de celle qui est sécrétée dans la salive des cochons mâles. Pour les repérer, on fait donc appel à des truies qui surpassent les chiens pour dénicher ce merveilleux champignon. La déforestation et les récoltes excessives ont rendu les truffes aussi chères que rares, de sorte qu'il faut se contenter de minces pelures pour aromatiser les plants. Toutes les tentatives pour cultiver les truffes à l'échelle commerciale ont été jusqu'ici infructueuses.
Mais moi, je voulais savoir pourquoi on disait pousser comme un champignon alors.
Si on ne cueille pas un champignon, son chapeau double de volume toutes les 24 heures. Il prend d'abord l'aspect d'une coupe inversée qui s'évase pour révéler les lamelles brunes ou des tubes. Puis sa surface s'aplatit et les lamelles s'ouvrent. Plus le champignon grossit, plus sa saveur s'accentue.
Est-ce que champignons et alcool font bon ménage?
Non. Le coprin noir, un champignon sauvage tout à fait inoffensif, peut devenir toxique s'il est consommé avec de l'alcool.
On parle aussi souvent des champignons et des métaux lourds.
Oui, les champignons ont la particularité de pouvoir concentrer les métaux lourds qui se trouvent dans le sol, plomb, mercure, cadmium. Les champignons de couche et autres champignons cultivés sont contrôlés sur ce plan. Les champignons sauvages peuvent être fortement chargés en ces métaux toxiques s'ils proviennent de zones polluées, à proximité des routes par exemple.
Bon, mais il y a quand même beaucoup d'avantages à manger des champignons.
Oui, le champignon est très riche en fibres et très peu calorique. Il est de très bon apport en minéraux et en vitamine B. Dans certains cas, il apporterait des phytonutriments qui stimuleraient l'immunité.
Oui, mais il y a quand même des inconvénients aussi, non?
Oui, il est parfois indigeste. Ne réfrigérez pas les champignons sous une pellicule de plastique. L'idéal est de les enfermer dans un sac en papier ou dans un linge avant de les ranger dans le bac à légumes. Les champignons se conservent au maximum 4 à 5 jours au réfrigérateur. Rincez-les, si besoin, au dernier moment. Évitez de les peler car les nutriments sont concentrés sous la peau. Vous pouvez les trancher, les hacher ou les détailler en quartiers.
Merci Josie.
Merci.
Mangez-moi, c'est le champignon silo qui suffit, qui joue avec les âmes et les volets de la perception.
Il pleuvait beaucoup ce jour-là, heureusement on avait des capuches,
et surtout des poches insolites. Là-bas les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu. Il y avait plus qu'à s'y mettre pour assurer la cueillette.
Mangez-moi. C'est le chant du silo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Est-ce que c'est un bon? Mais non, c'est pas un bon, car y a pas de téton. Et puis il est trop plat, il a pas la bonne couleur. Ne me décourage pas, ouvrons les oreilles et
mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du silo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Oh, toi tu marches comme un canard, mais c'est pour mieux le voir. Oh putain, j'ai mal au dos, il faudrait un détecteur. Déjà, et sûrement qu'ils ont tout raflé. Ce coin-là, c'est sûr, il est connu. Putain, franchement, comment veux-tu? Maintenant, il est trop tard. On est bien avancé, on a les pieds tout mouillés. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi.
Plutôt que de m'écraser, pourquoi ne pas me manger?
Midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Le champ était humide, suffisamment facile. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons.
Rubrique à la rencontre.
Bonjour Eugène.
Bonjour Julie.
Quel âge as-tu Eugène?
Je suis Eugène, j'ai 85 ans. Je suis du quartier Minimes, puis je suis allé habiter à Lalande. Je suis un fan de l'opéra. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Ma mère m'avait amené au théâtre voir une opérette. J'ai vu pas mal d'opéras. J'ai commencé par Faust, c'est le premier opéra que j'ai vu. Ça m'a plu et j'ai continué. J'ai fait toute la saison. Peut-être un capitole. C'était à l'amphithéâtre, tout à fait à vous. À l'amphithéâtre, ce sont des gens, des personnes plutôt âgées, avec lesquelles j'ai beaucoup parlé et beaucoup appris finalement. J'aime bien Faust.
Les premières
mais
découvertes.
Il y a quand même. Il y a autre chose aussi. Ce qui fait de Verdi, Rigoletto, La Traviata, je l'aime, mais Nabucco, Aïda. Mes grands-parents aimaient bien l'opéra. Mon grand-père était artisan, ma grand-mère était fleuriste. Après le travail, ils allaient au Théâtre du Capitole. Ils arrivaient en retard la plupart du temps. Moi, à l'époque, quand ma mère m'avait pris un abonnement, elle m'avait pris un abonnement pour le dimanche après-midi.
Quel opéra tu écoutais quand tu as rencontré Janine?
Oh, on avait été voir une opérette. On avait été voir Le Chanteur de Mexico.
Mexico, Mexico. Soleil qui chatouille, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont arrêtées et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour.
Beaucoup d'années, j'ai vu pratiquement tous les répertoires courants. Parfois même Faust, je l'ai vu 4 ou 5 fois, parce que chaque année, ça repassait avec des interprètes différents, mais c'est la même chose.
Oh,
Il y a une fable de La Fontaine dont vous vous souvenez particulièrement.
Le chat, la belette et le petit lapin, c'est assez connu.
C'est un souvenir pour vous?
Oui, la pluie, j'étais à l'école. Hein.
Bon. Ouais. Et donc, c'est incroyable, ça fait longtemps.
Ça remonte à loin.
Ça fait très, très longtemps, oui.
Et on s'en souvient toujours. On se souvient de
oui,
cette fable.
C'était une fable qui m'avait plu, oui.
Bon, merci d'être venu jusqu'à nous pour raconter un peu tout ça.
Je vous remercie de m'avoir fait venir.
C'est Josie pour remercier. Parce que c'est Josie qui nous a donné envie de vous rencontrer.
Merci Eugène d'avoir partagé ton amour de l'opéra avec nous. Comme Isabelle l'a annoncé en introduction, notre chronique suivante aborde les fables de La Fontaine. Et on dirait bien que cette émission met le XVIIe siècle à l'honneur. Au départ, je ne voyais pas bien le lien entre La Fontaine et l'opéra. Eh bien, je me trompais. En faisant quelques recherches, j'ai découvert que La Fontaine et l'arrivée de l'opéra en France étaient contemporains. Jean de La Fontaine a vécu de 1621 à 1695. L'opéra occidental est né en Italie, à Florence, au XVIIe siècle, et est arrivé en France en 1645, quand le cardinal Mazarin a fait donner une représentation de la Finta Pazza à la cour de Louis XIV. Ensuite, une école française d'opéra a été créée par Jean-Baptiste Lully, qui était musicien du roi. Mais le lien La Fontaine, opéra, Lully, XVIIe siècle ne s'arrête pas là. Si La Fontaine est principalement connu pour ses fables, il a également écrit des romans, des pièces de théâtre et il s'est essayé à l'opéra. En particulier avec Daphné, un opéra écrit sur le mode pastoral, donc un opéra bucolique et champêtre. La Fontaine a proposé ce livret à Jean-Baptiste Lully. Mais Lully l'a refusé, probablement parce qu'il estimait que ce genre pastoral ne convenait plus à son public. C'est-à-dire que l'époque était plutôt à l'inspiration héroïque et guerrière. Il faut savoir que le pays était alors en pleine guerre de Hollande et que cette guerre menaçait de tourner au désavantage de la France. Alors les bergers qui chantent, c'était pas trop à l'ordre du jour. Ah, mais La Fontaine s'est vengée. Particulièrement dans un poème qu'il a intitulé « Le Florentin » et où il présente Lully comme un avare malhonnête. S'en est suivie une brouille féroce entre les deux hommes. Mais que tout ça ne nous empêche pas de continuer à savourer les fables de La Fontaine. Et à présent, Eliane et Christine vont rappeler des souvenirs à beaucoup d'entre nous avec la fable « Le chat, la belette et le petit lapin ». Et justement, Eliane, pourquoi avoir choisi cette fable ?
Tout simplement parce que j'avais eu une excellente note j'étais toute jeune pour cette récitation et pour les explications que j'avais fournies. Voilà, j'avais choisi cette fable parce que c'était une des rares avec beaucoup de dialogues, puisqu'ils sont trois personnages. Donc, c'est une des rares fables de La Fontaine à être écrite avec une telle variante de récit, d'écriture, et des vers très irréguliers. Et bien entendu, la finale, la fin et la morale de cette fable apportent une très grosse réflexion sur la justice, avec une dénonciation, on va dire, de la difficulté à formuler la vraie justice. Et c'est pour ça qu'on se permet d'appeler Grippeux Minot, le bon apôtre, tout ça c'est pour se moquer de beaucoup de choses de la vie, et on se moque beaucoup aussi de tous ceux qui espèrent avoir gain de cause et qui finalement se font avoir eux aussi. Donc ne nous moquons jamais des autres, ça n'est pas la peine, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui se moquera de nous. Le chat, la belette et le petit lapin.
De Jean de La Fontaine.
Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette un beau matin s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, celui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeanne au lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. Oh, dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître? Dit l'animal chassé du paternel logis. Oh là, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, où je vais avertir tous les rats du pays.
La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume? Plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi.
Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui de père en fils l'ont de Pierre à Simon, puis à moi, Jean, transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage?
Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. C'était un chat vivant comme un dévot ermite. Un chat faisant la chatte mite. Un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras. Arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin pour juge l'agré. Les voilà tous deux arrivés devant Sa Majesté fourrée. Grippe Minot leur dit
« Mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les ans sont la cause. »
L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée, il vit les contestants, Grippe Minot, le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre.
Ceci ressemble fort au débat quand parfois les petits souverains se rapportant au roi.
Et toi, Christine, pourquoi cette fable? C'est une fable de La Fontaine qui est une de mes préférées, pour ne pas dire ma préférée. Et cette fable, je l'ai apprise bien sûr quand j'étais en primaire, et je me souviens très bien que, en apprenant cette fable, en même temps, je me faisais un petit film. Et je voyais très bien le lapin, je voyais très bien la belette, elle avait des petites lunettes et un petit nez pointu. Je ne sais pas d'ailleurs si les belettes ont des nez pointus, mais en tout cas, moi je l'ai vu comme ça. Et Ramina Grobis, qui était un gros chat, qui avait des lunettes rondes et qui avait le pelage gris, parce que c'était un vieux monsieur qui était sourd d'ailleurs. Et donc je me souviens très bien de toutes ces images, et c'est une fable qui m'avait fait rêver. Voilà, je m'étais fait mon petit film, et je pense que c'est pour ça que ça m'a plu, ou c'est parce que ça m'a plu, que je me suis fait un petit film.
Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. Vos histoires et vos fables sont toujours dans nos cartables.
Du corbeau au laboureur, nous les connaissons par cœur.
Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. Que de ruses dénoncées, de poteaux les renversés.
Autant de jolies façons de nous faire la leçon.
Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. Vous parlez si bien en vers, usant de mille travers.
Images et métaphores pour la raison du plus fort.
Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. À travers vos animaux, vous osez dire tout haut.
Tout ce qui se dit tout bas, chacun s'y reconnaîtra.
Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage. Pour vous tirer révérence et ses justes récompenses,
nous avons mis en musique vos plus fameuses répliques.
Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine de vous rendre un simple hommage sans vous en faire un fromage.
Le projet Génération, c'était un spectacle et ça le redeviendra. Et c'est aujourd'hui une émission radio.
Et toujours un rendez-vous artistique et d'expression réalisé dans le cadre de l'association Artis. Il est financé par le Conseil départemental de Haute-Garonne et la Conférence des financeurs, en partenariat avec Radio de la Save, bien sûr. Nous invitons nos 60 ans et plus à rejoindre l'aventure de Génération.